Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
À la une, ce nouveau record battu hier par la plateforme Doctolib.
500 000 réservations en 24 heures, preuve de l'engouement pour cette dose de rappel, désormais quasi obligatoire, nous allons y revenir. Couvre-feu en Martinique depuis la nuit dernière, alors que les barrages s'intensifient, on assiste même à des raquettes en plein jour. Reportage dans un instant. La colère des salariés de Décathlon, alors que le groupe enregistre des profits records. En rayon, les vendeurs aimeraient bien en voir la couleur. Et puis Zinedine Zidane, entraîneur du PSG, la rumeur se fait persistante. Le journal Le Parisien annonce ce matin que les négociations ont même déjà commencé.
Cyprien Signy, on vous retrouve dès la fin du journal.
Vous entendrez que le Véran 2021 ressemble beaucoup au Véran 2020.
La face que j'ai de la une, Isabelle Choquet. La
passion Joséphine. Ce matin, on va plonger dans le monde des collectionneurs pour un inventaire à la Becker.
Ce sera à 8h40. À 8h20, notre débat sur le cannabis, alors que l'Allemagne annonce vouloir la légaliser. La France pourrait-elle suivre ce modèle? Et puis à 8h35, nous vous ferons découvrir le meilleur restaurant du monde. Il est tenu par un Français et ça se passe à New York. Et puis à partir de 9h dans Laissez-vous tenter, invité exceptionnel ce matin, Atal, père et fils, Yvan et Ben, pour un nouveau film passionnant.
RTL Matin.
Plus de 500 000 prises de rendez-vous en une journée. Doctolib a encore explosé hier tous les records, jusqu'à 30 minutes d'attente, parfois plus, avant de pouvoir réserver un créneau de vaccination. Alors certains n'ont pas eu la patience d'attendre et ont préféré venir tenter leur chance directement sur place, dans les centres, au CHU de Grenoble par exemple. C'était jour de grande affluence hier. Reportage de Serge Puyot.
Vous pourriez reculer un petit peu afin de respecter les gestes barrières, messieurs, dames, s'il vous plaît.
À l'entrée du centre, c'est l'affluence. On joue des coudes pour obtenir une place, car beaucoup de personnes sont venues sans rendez-vous. À l'accueil, Séverine, agent administratif de l'hôpital, est débordée.
Il y a beaucoup de monde, hein, comparé aux autres jours. J'ai atteint le record. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on va dépasser les 300 personnes largement. Il y a une recrudescence des personnes qui veulent se faire vacciner troisième dose ou première et deuxième dose. On n'est que deux à l'accueil, que deux aux attestations. On gère tant bien que mal le monde d'aujourd'hui. Quoi.
Dès qu'elle a entendu les annonces du ministre de la Santé, Marie-Lou, la trentaine, n'a pas hésité une seconde. Elle s'est précipitée dans le centre de vaccination.
Oui, sans rendez-vous. Ben, je me suis dit que tout le monde irait faire la troisième dose, donc autant le faire le plus rapidement possible. Oui, l'annonce de M. Véran a joué. Il y a pas mal de monde.
Peut-être ça va être encore plus difficile après.
Voilà, c'est ça, exactement. Je me suis dit que je ferais peut-être moins la queue aujourd'hui.
Et le CHU de Grenoble pourrait renforcer les effectifs pour faire face à l'affluence des prochains jours.
Un reportage de Serge Peillot.
Alors ont-ils raison tous ces Français de se presser pour obtenir une dose de rappel? Quelles sont exactement les nouvelles règles en vigueur? Et dans quel délai? On va revoir tout cela en détail ce matin avec notre brigade RTL.
Et avec vous, bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Une précision d'abord, cette dose de rappel, elle concerne tout le monde, tous les adultes.
Oui, à partir de demain, elle sera ouverte à tous les plus de 18 ans. Et désormais, on peut faire son rappel 5 mois après sa dernière injection, contre 6 jusqu'à maintenant. En réduisant ce délai d'un mois, on réduit davantage le pic d'hospitalisation.
Que se passe-t-il avec nos passes sanitaires? Est-ce qu'il va falloir les mettre à jour?
Alors, sans dose de rappel, les passes sanitaires des plus de 65 ans seront désactivées à partir du 15 décembre et à partir du 15 janvier pour les 18-64 ans. Alors, pour connaître la date à laquelle votre passe sanitaire sera désactivé, vous comptez 7 mois après votre deuxième dose, parce qu'en réalité, vous avez entre 5 et 7 mois pour faire votre rappel.
D'autres changements, Sophie, concernant les tests et les règles à l'école?
Pour les tests dits de confort payants pour les non-vaccinés, à partir de lundi, leur validité passe de 72 à 24 heures. Et à l'école, s'il y a un cas de Covid dans une classe, elle ne sera plus fermée. Tous les élèves seront testés. Ceux qui seront négatifs retourneront en classe. Ceux qui seront positifs ou dont les parents ne veulent pas qu'ils soient testés resteront chez eux.
Pour terminer, Sophie, la question qu'on se pose évidemment tous, est-ce que ces nouvelles mesures seront suffisantes pour contenir cette cinquième vague qu'on dit très violente?
Alors, le gouvernement fait clairement un double pari, celui de la vaccination et celui de la responsabilisation de la population. Donc il ne parle pas de confinement ni de couvre-feu aujourd'hui. Mais pour que ce double pari soit gagné, il faudra 400 000 injections par jour, le double d'aujourd'hui. Donc une forte adhésion de la population à cette dose de rappel. Au moins la moitié des 18-49 ans et 80% des plus de 50 ans.
La brigade RTL ce matin et les précisions de Sophie Jousselin. Merci Sophie. Alors que le variant Delta, anciennement indien, est largement à l'origine de cette cinquième vague. Un nouveau variant vient d'être découvert en Afrique du Sud cette fois. Il présente un nombre extrêmement élevé de mutations et les scientifiques ne sont même pas certains de l'efficacité des vaccins contre cette nouvelle forme de virus qui semble avoir une capacité de transmission particulièrement accrue. Première conséquence financière, la bourse de Tokyo inquiète, a clôturé en baisse de 3%.
Il est 8h04, après la Guadeloupe, la Martinique instaure à son tour un couvre-feu tant que le calme ne sera pas revenu, a précisé le préfet.
La mesure est entrée en vigueur hier soir alors que sur les deux îles, maintenant les blocages continuent. La grève générale déclenchée à l'origine contre l'obligation vaccinale des soignants s'est transformée jour après jour en une véritable crise sociale. De nombreux barrages bloquent toujours les principaux axes routiers et l'on assiste parfois à des scènes assez surréalistes comme à Fort-de-France en Martinique où les automobilistes sont obligés de payer s'ils veulent passer sur place. L'un de nos envoyés spéciaux, Frédéric Veil.
Situation de plus en plus tendue sur les barrages qui ici en Martinique se multiplient. Des barrages où les automobilistes sont quelquefois même raquettés s'ils veulent passer.
Alors vous me prenez de l'argent pour passer? Non, je suis désolée. Non, regarde, viens, faut que je te parle. C'est pas normal que tu me demandes de l'argent pour passer. Je suis dans mon pays. Je suis martiniquaise. Et pourquoi tu me demandes de l'argent?
C'est plus cher, désolée.
Ah, parce qu'en bas c'est plus cher. Non.
Une situation que ne cautionnent pas les syndicats à l'origine de cette paralysie générale de Lille, Alain Decaille de l'intersyndicale.
Nous, on ne cautionne pas les. Nous sommes la partie visible la journée et là, ce qui se passe le soir, c'est encore autre chose. Nous sommes désolés pour toutes ces actions et on présente même nos excuses aux gens de la Martinique et au peuple et aux gens qui sont autour par rapport à ce qui se passe. On ne cautionne pas du tout cela et nous ne sommes pas non plus responsables de ça, quoi, en fait.
Reste que plus les jours passent, plus il est difficile de circuler ici en Martinique, qui doit désormais faire face à une pénurie de carburant.
Reportage signé Frédéric Veil pour RTL. Éric Zemmour n'est pas le bienvenu à Marseille, attendu sur place pour une visite de deux jours. Il va devoir affronter un comité d'accueil hostile à sa présence. Des rassemblements sont déjà prévus, notamment sur la Canebière en fin d'après-midi. Et puis par ailleurs, les avocats du polémiste, c'est une information du Point, ont demandé hier que soit retiré de la vente le magazine Closer, qui révèle dans son numéro apparaître ce week-end la grossesse de sa conseillère Sarah Knafo, présentée également comme sa compagne. Ces témoignages à présent diffusés hier soir dans l'émission de France 2, envoyé spécial, 5 femmes qui accusent Nicolas Hulot de viol et d'agression sexuelle. Parmi les récits recueillis, celui de Sylvia. Elle avait alors 16 ans. Elle était fan de l'ex-animateur et après un échange de courrier, il lui avait proposé un café avant de la ramener en voiture chez elle jusqu'au métro. C'est à ce moment-là que les choses auraient dérapé.
Il s'arrête donc après sur un parking, dans un parking aérien. Et là, il sort son sexe. Je sais qu'à plusieurs reprises, je me remets sur mon siège, j'enlève ma main. Enfin, je me rappelle être dans un état d'incompréhension, en fait. Il y avait une main qui prenait ma main et qui était sur son sexe. Et avec l'autre main, il voulait que je l'embrasse, que je lui embrasse le sexe. Et il me force à lui faire une fellation. Je lui embrasse le bas du ventre, parce que je sais que je suis coincée, en fait. Qui allait me croire, quoi? Une gamine de 16 ans, Nicolas Hulot, qui allait me croire?
Témoignage recueilli par nos confrères d'Envoyé spécial. Précisons que les faits sont tous prescrits et que Nicolas Hulot les conteste. Il a annoncé en début de semaine qu'il se retirait de la vie publique. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a demandé hier que des investigations soient conduites pour voir si d'autres plaignantes étaient concernées. Le parquet se réserve le droit d'ouvrir une enquête.
La consommation de cannabis en Allemagne pourrait être bientôt légalisée. C'est en tout cas dans les projets du nouveau gouvernement.
Et la mesure figure dans l'accord de coalition présenté cette semaine par les sociaux-démocrates, les libéraux et les verts. Et l'idée est soutenue par de plus en plus d'Allemands. Si la question fait débat et que le sujet est régulièrement posé, chez nous en France, nous avons voulu savoir ce matin, avec le recul, ce qu'il en était dans les pays où la vente de cannabis est légale. C'est le cas du Colorado. Cet État américain a été le premier à voter la légalisation. C'était en 2012. Et les autorités s'apprêtent, Lionel Gendron, à procéder à quelques ajustements indispensables.
Oui, surtout concernant le cannabis à usage médical et les produits de synthèse aux effets psychotropes beaucoup plus élevés. Des parents ont raconté les conséquences sur leurs enfants, effets physiques, vomissements ou tendances suicidaires induites par de trop fortes consommations. À partir du 1er janvier, sauf autorisation médicale, les quantités achetées seront limitées grâce à une carte avec numéro d'identification. Des campagnes d'information seront relancées pour l'usage médical et récréatifs. D'un point de vue économique, la légalisation a été une bonne affaire pour le Colorado. Les ventes ont explosé, 680 millions de dollars en 2014, plus de 2 milliards l'année dernière. Là-dessus, l'État perçoit plus de 350 millions de taxes. Elles servent à financer, entre autres, les écoles. Par ailleurs, cela a boosté le tourisme. Enfin, concernant la criminalité, elle a augmenté, mais le lien avec la légalisation n'est pas prouvé. En pourcentage de meurtres par habitant, le Colorado est au 36e rang sur 50 États.
Reportage signé Lionel Gendron.
Alors, et la France dans tout ça? Eh bien, ce sera notre débat de 8h20 avec François-Michel Lambert, qui est député des Bouches-du-Rhône, et Philippe Goujon, maire LR du 15e arrondissement de Paris. Dans un instant, ça grogne chez Decathlon. Le groupe affiche des profits records et les salariés aimeraient bien en profiter. Restez avec nous.
RTL Matin.
Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est l'une des enseignes préférées des Français et dont les ventes se portent d'ailleurs à merveille.
Oui, Decathlon et ses articles de sport accessibles à tous, ses vélos notamment en quasi-rupture et la fréquentation des clients qui ne se dément pas. Decathlon, enseigne familiale où l'on n'a pas trop la culture revendicative. Pourtant, plusieurs magasins se sont mis récemment en grève pour réclamer de meilleures rémunérations alors que le groupe réalise des profits records. Écoutez Sébastien Chauvin, vendeur et délégué CFDT chez Decathlon.
C'est la mentalité de nos actionnaires, hein, la famille Mullier notamment. Ils ont une mentalité d'épicier où on pinaille surtout sur les frais. Et ils sont quand même versés 350 millions d'euros de dividendes, ce qui est un record. Et là, sur l'année 2021, les performances sont extraordinaires. Les salaires ne suivent pas. Le SMIC a augmenté début octobre. Et nous, nos salaires, ils sont toujours les mêmes que l'année dernière. Donc c'est très difficile, surtout qu'on nous en demande de plus en plus. Globalement, les collègues nets, ils gagnent entre 1200 et 1300 euros net pour un vendeur. Et un responsable de rayon, il gagne entre 1800 et 1900 euros net, alors qu'il fait quasiment 55 heures par semaine.
Propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce ce matin qu'il annule la venue de son homologue britannique, Pitri Patel, à Calais, à la réunion prévue dimanche sur le dossier des migrants, et ce, en réponse aux propos de Boris Johnson, demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne.
Et à 8h12, quand la science-fiction se met au service de l'armée.
Ou quand les militaires demandent à des auteurs d'imaginer les futurs conflits de demain et les menaces auxquelles se préparer. Sur la base de ces travaux, l'armée peut ensuite envisager les moyens de s'en préparer. Une équipe d'auteurs, la Red Team, a été recrutée pour cela. Il y a un an, reportage de Brice Dugénie.
Une équipe de 10 auteurs de science-fiction sélectionnés par les armées imagine les menaces de demain. Les armes ultra-rapides, des conflits en pleine catastrophe climatique, la guerre spatiale ou encore le développement des mondes virtuels.
Le 12 octobre 2045, un attentat biologique est commis au cœur de Grand City, déjà ravagé par une crue centennale.
Obliger les militaires à se projeter, Laurent Genefort y prend un certain plaisir. Cet auteur de science-fiction est ravi d'aider les armées à penser la défense de demain.
Je viens pas du tout d'un milieu, je suis vraiment le pur civil. C'est vraiment du coup de la curiosité qui m'a poussé à m'enrôler. Le but, c'est de les emmerder un maximum. Ah oui, embêter les militaires, bah oui, c'est un des grands plaisirs de la science-fiction quand même. Mais quand même dans un cadre qui est celui du vraisemblable.
Les mutations de la guerre dans les années 2030-2040 amènent à maturité des évolutions tactiques et technologiques majeures.
Une imagination utile pour les militaires, comme le chef de bataillon Jean-Baptiste Collard.
Si on veut réfléchir différemment, il faut aller voir des gens qui pensent différemment. L'idée était de dire, mais on va leur faire penser comment est-ce que la guerre de demain pourrait venir amener des différences en termes opérationnels, technologiques, organisationnels pour les armées. Donc ils vont penser des choses parfois très éloignées des problématiques ou des intérêts des armées. Et nos auteurs de science-fiction, ils sont là un peu pour nous bousculer.
Les conflits imaginés par les auteurs de la Red Team sont comme d'autres opérations militaires classées confidentielles défense.
Un reportage signé Brice Dugénie.
C'est un bruit de couloir, de vestiaire, hein, devrait-on dire, de plus en plus persistant et qui s'affiche ce matin à la une du Parisien.
Et si Zidane devenait le prochain entraîneur du PSG? Selon le journal, les négociations ont démarré depuis plusieurs semaines déjà et une rencontre aurait même eu lieu durant les vacances de la Toussaint entre l'icône du foot français et les dirigeants du club de la capitale dans un grand palace parisien. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Question simple Nicolas, peut-on espérer voir dans quelques mois le grand Zidane au Parc des Princes?
Ah ben c'est un énorme coup dont a toujours rêvé le propriétaire qatari du Paris Saint-Germain. Les liens sont là, ils existent depuis longtemps et c'est un contact qui a toujours été entretenu. Zidane a notamment été ambassadeur de l'Émirat pour la candidature au Mondial 2022. Alors à quelle échéance? Éventuellement pas immédiate, pas dans les prochaines semaines semble-t-il. Le jeu de chaise musicale n'est pas lancé. Manchester United qui lorgne sur Pochettino va d'abord nommer rapidement un entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison en juin. On parle donc de l'été prochain. Le Qatar veut avoir ce qui se fait de mieux dans son club, dans sa vitrine plus que jamais dans la période où la Coupe du monde se déroulera fin 2022. Zidane en fait partie et il serait un argument supplémentaire pour tenter de conserver Kylian Mbappé. L'admiration est réciproque. L'attaquant français rêve du Real Madrid. À partir de janvier, il sera libre de discuter, de s'engager avec le club madrilène pour la saison suivante. C'est aussi pour cela que les connexions Zidane-PSG sont activées dès maintenant pour montrer que le club parisien envisage l'avenir en très grand les prochaines années.
On frétille.
Voilà Nicolas, Georges Rowe. Le foot, c'est aussi l'élimination hier soir de Marseille en Ligue Europa. Décevant en attaque en l'absence de Dimitri Payet et en grande détresse défensive, l'OM a été logiquement battu à Istanbul par le Galatasaray 4-2.
Un commentaire, Cyprien.
Ah, c'est terrible. D'un naufrage.
Ça passe en revanche pour Monaco, qualifié pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 2-1 sur la Real Sociedad. Les Monégasques rejoignent Lyon, déjà qualifié, mais qu'il a quand même emporté 3-1 à Brøndby. Oui. C'est écrit Brøndby, mais qui se dit Brøndby. Bon, et puis en Ligue Europe Conférence, on n'oublie pas Rennes, d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes, malgré un match nul décevant, 3-3 hier contre le Vitesse Arnhem. Ce sont des Hollandais.
Merci, voilà. Cher Dominique Tenza. On se retrouve pour le point de l'actualité à nous.